On va continuer notre étude dans la lettre des Philippiens. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, Vincent a prêché son message sur la première partie du chapitre 3, les versets 1 à 11. Il nous a montré comment Paul a effectué un transfert bancaire dans sa vie, où tout ce qu'il avait mis comme profit, tout ce qui avait fait son nom, sa réputation, son succès en tant que juif pharisien, eh bien, il a transféré tout ça dans la colonne perte. Il a fait ça parce qu'il avait saisi l'excellence de Christ. Et quand on saisit l'excellence de Christ, il n'y a pas photo, tout pâlit en comparaison. Alors comme beaucoup de vous, mardi dernier, Sarah et moi, on s'est connectés sur Zoom pour discuter de ce passage avec notre cellule. Une des questions posées par Vincent était la suivante, c'était « Quel est le but poursuivi par Paul? Est-ce aussi le vôtre ?» Alors, le but de Paul, c'était facile. Là, tout le monde peut parler. Ah, c'est Christ. Connaître Christ, c'est clairement le but de Paul dans ce passage et dans sa vie. La deuxième partie de la question, est-ce aussi le vôtre? Ah, alors là, silence un petit peu plus gêné. On regarde si Zoom bug pas. Non, personne ne parle. Au final, je crois que c'est Donatien qui brise le silence. Merci, Donatien. Il répond quelque chose du genre, nous aussi on doit avoir Christ comme but. Bon, maintenant, est-ce que c'est vraiment comment on vit? Ça, c'est plus difficile. Effectivement, c'est plus difficile. C'est vrai, quand on prend à cœur ce que Paul nous a dit, sa biographie là dans les versets 7 à 11, c'est difficile de se comparer à lui. Et écoutez-le. Il nous dit « Ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. D'ailleurs, je considère tout comme une perte, à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Christ. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout comme des ordures. » Waouh. C'est radical. Et je pense que quand on lit ça, quand nous chrétiens lisons ça, on désire avoir le même désir que Paul, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui résonne, on veut faire ça. Mais bon, Paul, on l'admire, on le regarde un peu de loin et on se dit, oh là là, quel exemple à suivre, on se sent clairement inadéquat. Alors que faire? Est-ce qu'on abandonne, on se résigne de mettre Paul sur un piédestal et de vivre notre vie comme un chrétien de deuxième, de troisième classe? Ou alors peut-être qu'on va jouer un peu l'hypocrite le dimanche, on va dire, Dieu, Christ est mon gain tous les jours. Puis en fait, en sachant que, oulala, là, c'est pas vraiment comme ça que je me comporte, même en quittant cette église. Bon. Alors je pense que Paul savait un peu qu'on allait réagir comme ça, qu'on pouvait réagir comme ça, soit être découragé, soit être, avoir tendance à jouer un peu l'hypocrite. Parce que dans ce passage, il va enchaîner son passage magnifique par des encouragements très spécifiques et très concrets. Pour pouvoir l'accompagner lors de son cheminement. Parce que, ne vous y trompez pas, Paul va insister, lui aussi il chemine. Il n'est pas arrivé, il n'a pas fini. Et il va nous montrer comment cheminer avec lui. Alors si vous voulez bien ouvrir vos Bibles à Philippiens au troisième chapitre, on va commencer à lire au verset 12, on va lire jusqu'au premier verset du chapitre 4. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, Ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Prions. Notre Père, on vient à toi assoiffé ce matin, Seigneur. On veut que tu nous nourrisses, que tu nous désaltères avec ta parole, avec ta vérité, avec ton Christ. On prie que ton Saint-Esprit nous ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous voyions la majesté de ton évangile et des bienfaits que tu as donnés à ton peuple en Christ. Alors, ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre nos cœurs spirituels. On prie de cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici la feuille de route pour ce matin, ce qu'on va étudier ensemble. On va voir que dans le but de nous emparer de Christ, de saisir de Christ, Paul va nous donner trois marques de maturité spirituelle. On va voir que le chrétien mûr va avoir une soif insatiable pour Christ, c'est la première chose. Le chrétien mûr va voir sa vie comme une course, comme un marathon à courir à Christ. Et troisièmement, le chrétien mûr va avoir un désir d'imiter ceux qui courent avec lui vers le même but. Alors au verset 12, Paul nous dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour le saisir. » Alors la première question, c'est le mot « prix » dans cette phrase en grec, il n'est pas là. Tout ce que Paul dit littéralement, pas que je l'ai déjà emporté, mais je tâche de le saisir. Alors qu'est-ce que c'est qu'il veut remporter ? Faut déjà bien comprendre le prix avant de s'élancer dans la course. Eh bien, comme Vincent nous l'a dit la semaine dernière, le prix, c'est la connaissance de Christ. C'est vers cela c'est le prix qu'il veut attraper. Il le dit clairement au verset 8, je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ. Et encore au verset 10, ainsi, je connaîtrai Christ. Paul veut connaître Christ. Et bien sûr, c'est pas seulement une connaissance intellectuelle. Il le dit clairement au verset 10, il dit que ainsi, je connaîtrai Christ. La puissance de sa résurrection, la communion à ses souffrances, afin de devenir conforme à lui dans sa mort. Donc il y a cette idée d'intimité avec Christ. C'est comme une connaissance qu'on a avec un bon ami ou son épouse. Paul veut le connaître clairement et c'est le prix qu'il veut remporter. Alors il y a une chose sur laquelle Paul va insister dès le début, dès les versets 12 et 13, deux fois, il va dire « Je n'ai pas encore acquis ce prix ». Au verset 12, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. » Et ensuite, « Je ne pense pas l'avoir saisi. » Et je pense que la raison pour laquelle il insiste là-dessus dès le début, c'est que il sait bien ce qu'on va penser après sa biographie de super-héros. Là, on va se dire « Oh là là, Paul, c'est un peu un surhomme, un super-héros chrétien. Il est à l'église, ce que Thomas Pesquet est aux Français. » Thomas Pesquet, c'est l'illustration favorite des pasteurs. ça revient partout. Mais il est ce que Thomas Pesquet est aux Français en ce moment, c'est oh, « il nous fait rêver, il nous emmène littéralement dans les étoiles, mais bon, c'est bien que parler 5 langues ou 6, je sais pas combien, aller être astronaute, ça on le saura jamais. » Est-ce que c'est la façon dont on doit voir Paul ? Non. Il nous dit « Vous pensez que j'ai atteint le zénith spirituel et c'est que de là-haut, comme Bouddha, je vous appelle à venir me rejoindre ? » Pas du tout. Il nous dit « Moi aussi je chemine, alors cheminez avec moi, venez avec moi. » Et on va voir que, bien sûr, il y a des choses qui sont binaires dans la vie chrétienne. Le salut, c'est comme ça, par exemple. Jésus, c'est le salut, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Jésus le dit clairement en Jean 3, 36, il va nous dire « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » C'est un acquis aujourd'hui. « A la vie éternelle. » Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Donc ceux qui ont placé leur confiance en Christ ont la vie éternelle dès maintenant. Il n'y a pas de graduel, tu as un peu plus la vie éternelle, un peu moins. Non, ça c'est un acquis binaire, tu l'as ou tu ne l'as pas. Mais là, ce n'est pas ce dont Paul nous parle ici. Il ne nous parle pas du salut, de la conversion. Il va nous parler de la vie chrétienne au jour le jour sur la terre jusqu'à notre résurrection. Le chrétien a-t-il tout acquis le jour de sa conversion ? Non. Paul va nous le dire, il grandit dans sa connaissance de Christ tout au long de sa vie. C'est un peu, si vous pensez au mariage, est-ce que vous connaissez tout de votre époux le jour du mariage ? Heureusement, non, vous vous dites. Sinon, ce serait plus difficile de dire oui. C'est quelque chose, le mariage marque le début d'une intimité qui va grandir au fil des années, au fil des des joies et des peines de la vie. Et si le mariage est bon, on va continuer à se connaître de mieux en mieux. C'est pareil avec notre relation avec Christ. De même que le mariage scelle notre vie de mariée pour jusqu'à la fin de nos jours, et bien quand on accepte Jésus, cela scelle notre destin éternel, mais ça ne marque que le début de notre connaissance de Christ. Alors on pourrait penser que la maturité spirituelle, alors c'est celui qui connaît le plus de Christ sera le plus mature. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce que Paul nous dit au verset 12. Il emploie le mot perfection. Vous savez, il ne dit pas que j'ai déjà atteint la perfection, donc Paul se dit pas parfait. Et pourtant au verset 15, ça dépend de vos traductions, Paul va dire tous ceux qui sont des hommes faits comme nous, ou bien tous ceux qui sont mûrs comme nous, adoptons cette attitude. Et le mot mûr là, ou homme fait qu'il utilise, c'est le même mot, c'est perfection. Donc il nous dit d'un côté, j'ai pas atteint la perfection, et après il va leur dire, tous ceux qui sont parfaits comme moi doivent adopter cette attitude. Donc qu'est-ce qu'il nous dit là? T'es parfait ou t'es pas parfait? C'est sur quel pied danser, Paul? Ben, je pense qu'il est en train de nous dire que si vous voulez être parfait dans votre maturité, si vous voulez vraiment être un homme mûr, eh ben sachez que vous n'êtes pas parfait et que vous avez encore beaucoup à mûrir comme moi. Alors joignez-moi, soyez mûr comme moi, en réalisant que vous avez beaucoup à mûrir. Paul nous dit que le chrétien, la première marque de maturité, c'est de réaliser que on doit connaître Christ plus. On a cette soif insatiable de Christ. On pourrait même appeler ça un certain mécontentement que Paul nous dit d'ici d'adopter. Alors c'est vrai qu'on va le voir dans le chapitre 4. Le mécontentement, c'est pas une qualité en général. Au contraire, Paul va nous dire, soyez contentés en toutes circonstances. Mais il a ici en tête les circonstances matérielles, les circonstances, les choses qui nous arrivent. C'est vrai que là, il faut être contenté en tout. Par contre, là, il nous dit, mais ne soyez pas satisfaits, ne soyez pas contentés de là où vous en êtes dans votre marche avec Christ. Non, là, il faut toujours en vouloir plus. Et vice versa, ceux qui, au contraire, se disent, moi, Christ, j'en sais assez. Ça, c'est une immaturité qui est bien dangereuse, on va le voir. Et c'est bien sûr quelque chose que je pense personne d'entre nous ne dirions ce matin. On ne dirait pas comme ça, je connais assez Christ. Mais par contre, quand on examine notre vie, est-ce que ce serait le témoignage qu'on en retire, la façon dont on utilise son temps ou son argent? Est-ce que ça témoignerait du fait que Christ, on en a juste assez? C'est pas qu'on connaît tout, mais moi, ça me suffit pour maintenant. Ça, c'est dangereux, on va le voir. Alors Paul, lui, par contre, il en veut. Il n'est pas satisfait, il a compris que Christ, le bien suprême, est un bien suprême et que donc, il faut qu'il y court dès maintenant. Ce mécontentement va donc naturellement l'amener à vivre sa vie d'une certaine manière. Car à quoi va mener cette soif de Paul pour Christ? On le voit clairement dans les versets 12 à 14, dans les verbes qu'il va utiliser. Il va dire, je cours pour tâcher de le saisir. Je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix. Courir, remporter, se saisir, s'emparer, se porter, le but, le prix, tout ça c'est du vocabulaire du sport. Paul a en tête ici un athlète qui court une course dans une compétition. L'athlète, il a un but précis, un objectif clair. Il nous dit, je cours vers le but. Quel but? Celui de remporter le prix de l'appel céleste de Dieu. Paul ne sera pas satisfait tant qu'il ne tiendra pas le Christ, son trophée entre ses mains. Même si bien sûr, il sait qu'il ne tiendra pas entre ses mains jusqu'à ce qu'il le voie face à face quand il est ressuscité, merci Vincent. mais il sait qu'il peut le saisir un peu plus aujourd'hui. De même, l'objectif de l'athlète va influencer son programme de préparation. On va pas se préparer à un match de foot dans le jardin comme on se prépare à la Coupe du Monde. Eh bien, parce que Paul a pour but Christ, il va faire en sorte de ne se laisser détourner par rien. On voit ça au verset 13, il nous dit « oubliant tout ce qu'il y a derrière ». Et ça, ça nous fait penser à tout ce qu'il a transféré de profit à perte, toutes ces choses qui faisaient sa renommée. Maintenant, ça peut que le ralentir. Il ne le regarde même pas. Par contre, il va se porter vers ce qui est devant. Se porter, le mot fait référence à ceux qui font des courses de chars, par exemple, où tous les muscles participent à l'effort de gagner la course. Il s'étire, il se penche de tout son être sur ce qui est devant son Christ. Paul va faire de même avec sa vie. Il va orienter tout vers ce but. Maintenant, il va y avoir deux dangers dont Paul veut nous garder ici. Le premier, ça va être de pousser l'analogie de la course un petit peu trop loin. Ça va être de transformer cette course en une espèce de course méritoire où on va mériter notre salut parce qu'on court tellement bien. 10e place au sprint, désolé, relégué à l'enfer éternel. C'est pas du tout ce qu'il veut qu'on tire de cette analogie ici. Regardez la merveilleuse qualification que Paul va ajouter dans la deuxième partie du verset 12. Il dit « Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Ou comme ce S21 dit « Je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. » Paul court à Christ parce que Christ s'est déjà saisi de lui. Et là, la grammaire est cruciale. Si on inverse, là, on perd l'évangile. Il ne court pas afin que Jésus se saisisse de lui, afin qu'il soit assez beau, assez saint. Non, ça, c'était sa vie d'avant. C'était ce qu'il essayait de faire. Puis maintenant, il court parce que Jésus s'est saisi de lui. Puis notez même le temps des verbes. Paul court au présent parce que Jésus s'est saisi de lui au passé. C'est l'action passée de Jésus qui donne à Paul sa réaction aujourd'hui. Paul court parce qu'il s'est fait emparer par Jésus. Car pour courir à Christ, il faut à la fois voir que Christ est le bien suprême et aussi avoir l'audace de courir à lui. Et c'est en s'emparant de nous, ça c'est l'action de Dieu, c'est le don de Dieu envers nous. C'est ça qui nous ouvre les yeux sur le bien suprême qu'est Christ. Il nous appelle à mourir à ce monde, mais quand il s'empare de nous, on le fait avec joie, parce qu'on réalise qu'il est bien mieux que tout ce que ce monde peut nous apporter. Avoir les yeux ainsi ouverts est un cadeau de Dieu. Alors si votre désir ce matin, c'est de connaître Christ, soyez encouragés, parce que ça, c'est un désir supernaturel. Et c'est la preuve, un indice, que Christ s'est emparé de vous. Donc même si vous trouvez votre désir un petit peu trop moribond, soyez encouragés et tournez-vous à Dieu, demandez-lui de vous redonner ce désir pleinement, parce qu'il l'a fait, et il le fait. Donner la vue aux aveugles, c'est sa spécialité, et il le fera encore. Et en s'emparant de Paul, Christ lui a aussi donné l'audace de courir à lui. Parce que quand on y pense, Christ est vraiment ce bien suprême. Sa majesté, son pouvoir, sa beauté. C'est un peu audacieux de vouloir s'en emparer, n'est-ce pas? Je me souviens quand j'étais adolescent, moi, mon idole, c'était MacGyver. Je m'étais acheté le même couteau suisse. J'avais les mêmes chemises à carreaux. Je me faisais faire la même coupe de cheveux. Je crois que je lui ai même envoyé une photo à dédicacer. Mais la photo dédicacée, c'était un peu le summum de l'intimité que je pouvais partager avec MacGyver. Avec Christ et quelque chose de différent. Avec Christ, notre trésor, il nous donne l'audace de pouvoir le connaître de façon intime. Et si Christ ne s'était pas saisi de nous, on n'aurait ni l'audace, ni le désir de le faire. Alors gardons-nous de courir afin de mériter notre salut. Alors si c'est le premier danger, le deuxième danger, c'est un peu l'opposé, on pourrait l'appeler le danger évangélique. On comprend bien qu'on est sauvé par la grâce, oui, on va pas être sauvé par les œuvres. Mais au lieu que ça nous conduise à courir, ça nous conduit à nous achevoir dans la chaise longue et à d'attendre la résurrection. C'est le danger de celui dont on a déjà parlé, celui qui pense tout savoir ou qui au moins pense en savoir assez. Il a compris l'évangile, du moins c'est ce qu'il pense. Il a dit oui à Jésus et donc il est tranquille, il sait où il va. Le futur sera bon. Alors le problème, c'est qu'une telle attitude, malheureusement, ça rate le but du salut complètement. Pensez encore une fois au mariage. Pensez à un homme qui rencontre une fille, il tombe amoureux, il décide de se marier, il la demande en mariage, elle dit oui. Et maintenant, il passe tout son temps à faire du vélo tout seul, à regarder la télé. Mais passer du temps avec elle, il s'en fiche. Il se dit, bon, l'essentiel est fait, on va se marier dans 2 mois. Maintenant, je vais passer du temps un peu, tant qu'il m'en reste, à faire les choses que j'ai vraiment envie de faire. Qu'est-ce qu'on aurait envie de dire à cet homme ? On aurait envie de le secouer, de lui dire, mais qu'est-ce que tu fabriques ? Toutes ces choses, c'est rien. Ce qui compte, c'est ton épouse. Passe du temps avec elle, même si, oui, tu la connaîtras bien plus bientôt. Je pense que ça nous dirait que son espoir, peut-être, c'est dans les bienfaits du mariage. Les bons petits plats, peut-être le lit conjugal, mais c'est pas dans l'épouse elle-même, c'est pas ça qu'il désire. L'épouse est accessoire, et ça, c'est un danger qui nous menace aussi. Mais pas pour Paul. Paul court à Christ, car Christ s'est emparé de lui. Et au verset 15, il va donner les premiers impératifs de cette section. Il va dire aux Philippiens, adoptons cette attitude. Et au verset suivant, marchons dans la même direction. Parce que s'efforcer de courir à Christ, c'est la deuxième marque de la maturité spirituelle. C'est la réponse à cette soif insatiable. Parce que si cette grâce de Dieu est complètement opposée au mérite, elle n'est pas du tout opposée à l'effort. Au contraire, elle nous encourage à nous efforcer de courir à Christ. C'est comme si, imaginez qu'on vous dise, votre jardin est truffé de millions de diamants. Certains juste en dessous de la surface, d'autres bien plus profonds. Alors pour tout excaver, il va vous falloir les pelleteuses, la main d'œuvre. Et ça, on va dire, à cause de Covid, vous pourrez pas l'avoir avant 6 mois. Alors qu'est-ce que vous faites avec cette information ? Est-ce que vous prenez la chaise longue pour vous faire bronzer tout l'été en disant « Ah, c'est super !» Ou est-ce que vous prenez la voiture, allez à Leroy Merlin et achetez la plus grosse pelle que vous pouvez trouver, mettez à 4 pattes et vous creusez ? Bien sûr, vous allez à Leroy Merlin, achetez la carte de fidélité et achetez le plus de pelles possible. Vous allez creuser pour avoir le plus de diamants possible, même si vous savez très bien que vous ne pourrez pas les avoir tous. Vous allez creuser dès aujourd'hui pour en avoir plus, parce que c'est ça, c'est la même chose avec Christ. S'allonger sur la chaise longue, ce serait de la folie. Quand on saisit la valeur de Christ, on veut le connaître dès maintenant. On ne va pas laisser l'assurance d'une connaissance pleine, mais future, nous empêcher de connaître un petit peu plus aujourd'hui. Ce serait de la folie. Et donc Paul ne va rien laisser au hasard, rien ne laisser se ralentir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Comment est-ce qu'on court à Christ ? Comment est-ce qu'on met ça en application ? Je pense que quand j'entends le mot course, je pense à un sprint. C'est mon idée de la course. Mais je pense que c'est plus approprié ici de penser à un marathon. Alors là, parce que la première chose avec un marathon, c'est que c'est long. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de regarder un marathon à la télé. Bon, il y a des épreuves un peu plus passionnantes à regarder. Parce qu'un marathon, c'est long. Et ici, cette connaissance de Christ que Paul va nous dire, ça se mesure aussi à l'échelle d'une vie. C'est long, c'est une course à distance. Alors quand vous lisez la biographie de Paul, on a tendance à se dire que tout ça, il l'a direct et il l'a pour toujours. Mais pensez plutôt à que c'est quelque chose que Dieu a cultivé en Paul, et même Paul lui-même dit, il chemine encore dans cette direction. Donc cette transformation qu'on voit en Paul, soyez encouragés, c'est une transformation progressive. Attendez-vous pas à être soit Paul, soit zéro. Non, non, vous êtes en cheminement vers cette perfection, comme au cours un marathon. La deuxième chose, c'est que pour courir un marathon, il faut s'entraîner. On va pas se pointer le matin de la course et courir 42 kilomètres. On n'ira pas bien loin, du moins, pas moi. Et comment est-ce qu'on s'entraîne pour le marathon ? Est-ce que le premier jour, allez, je vais courir 42 kilomètres, demain, je vais courir 42 kilomètres plus rapidement ? C'est pas comme ça. On va courir un petit peu le premier jour, ensuite on va ajouter une distance et voilà, graduellement jusqu'à le jour de l'épreuve. De même, notre cheminement avec Christ s'accomplit à travers les petits choix quotidiens, les petites décisions qui jalonnent notre vie de tous les jours. C'est là qu'on gagne le marathon avec Christ. On n'attend pas le jour de la course pour commencer à y aller, pour se dire « Ah bah, moi je suis pas prêt ». Tout comme un marathon se gagne dans les entraînements quotidiens, c'est les petits détails de la vie quotidienne qui vont nous donner ces opportunités de gagner de l'intimité avec Christ. Comme ça, quand vient le jour de la grande épreuve, quelque chose qui nous aurait fait peur il y a plusieurs années, maintenant, Christ nous a préparés pour y faire face. Une grande tentation, une grande souffrance. C'est par exemple, en refusant de regarder une fille dans la rue, de le faire jour après jour, ces petits actes d'obéissance. Ça nous prépare au jour où on sera en voyage d'affaires fatigué et qu'on aura une collègue nous inviter dans sa chambre après une grande réunion. Ou alors c'est en acceptant d'enseigner à l'école du dimanche, même si les enfants, vous avez jamais été à l'aise avec les enfants, mais c'est faire ça fidèlement chaque dimanche. Ça va vous préparer pour le jour où Dieu va vous appeler à tout quitter, tout votre confort pour aller le servir dans un endroit inconnu qui vous est pas confortable. Comme dans un marathon, on s'empare de Christ en courant à lui chaque jour. Et c'est dans les petits détails de la vie quotidienne qu'on gagne ce marathon. Alors Paul n'est pas naïf, il sait que à différents stades de nos vies, on est plus ou moins animé par cette soif. C'est le cas pour moi quand je regarde en arrière. Au verset 15 et 16, on voit qu'il plaide avec de telles personnes. Il leur dit, si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. En d'autres termes, si vous ne voulez pas courir, soit Dieu dans sa grâce changera votre attitude en son temps. Mais en attendant, laissez-nous courir, écartez-vous. Nous avons un trésor à découvrir. Et cela nous mène à notre troisième point, celui de l'imitation. Parce que pour bien courir, il faut avoir de bons modèles. Ça aide. On a vu que le chrétien mûr est marqué par cette soif insatiable. Que ça le conduit à mener sa vie comme un marathon. Et Paul va nous donner ici une façon très pratique. Si ça reste théorique encore à ce stade pour vous, là ça va être très pratique. Avec le dernier impératif dans cette section. Au verset 17, il va exhorter les Philippiens. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs. Imitez-moi. Alors, je sais pas si c'est quelque chose que vous dites beaucoup, à beaucoup de gens. Moi, je trouve ça un peu presque scandaleux. Vous trouvez pas c'est choquant que Paul, un homme, puisse dire ça? Et en plus, dans la Bible. Rien que ça. Lui, un simple homme. Parce que c'est pas une suggestion ici, c'est une commande, c'est un impératif. Et notez, c'est pas que pour certains, ceux qui sont zélés comme moi, des fous pour Dieu, ils peuvent faire ça, les autres non. Non, c'est soyez tous mes imitateurs. Vous tous là, chrétiens de l'EBTM, ce matin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, au chapitre 2, au verset 5, on a vu qu'il a déjà commandé les Philippiens à adopter cette attitude qui est aussi en Christ. Donc le but ultime, c'est bien sûr imiter Christ. Alors Dieu, on pourrait penser, aurait pu en rester là. Parce que on imagine, il a créé l'univers, il nous a créé, il a été patient avec nous, il nous a donné sa parole, il nous a envoyé son Fils qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité pour notre justification. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il pourrait dire, mais qu'est-ce que vous voulez d'autre? Vous avez tout là, vous avez tout. Mais Dieu, c'est aussi un bon père comme on l'a chanté. Il connaît nos faiblesses, il sait bien que même quand nos cœurs ils sont confrontés à des vérités incroyables de qui nous sommes en Christ, de ce que nous avons en Christ, même ça peut laisser nos cœurs un peu quoi des fois. Et au lieu de nous laisser à nos cœurs durs et aveugles, Dieu, en bon père, va nous donner des aides visuelles concrètes, littéralement qu'on peut voir en chair et en os, des autres chrétiens. Il va nous donner des frères et des sœurs à imiter, des modèles qu'on peut voir avec notre propre yeux physiques quand nos cœurs spirituels sont peut-être un peu dans le brouillard. Car Paul ne va pas dire seulement aux Philippiens, imitez-moi, Paul. Ça n'aurait pas été super utile pour les Philippiens qui n'ont jamais rencontré Paul. Ce serait pas vraiment utile à nous. Forcément, on peut pas connaître Paul plus que dans ses écrits. Mais il va aussi dire au verset 17 « Et imitez aussi ceux qui marchent sur le modèle que vous avez en nous. » En d'autres termes, imitez ceux qui sont autour de vous, là, à l'église, dans votre cellule, ce que vous pouvez voir en ce moment, je vous les donne comme modèle. Et c'est quelque chose de, moi, c'est quelque chose que je trouve incroyable. Vous voyez Paul qui imite Christ. Certains imitent Paul. Et maintenant, Paul est en train de leur dire, imitez ceux qui nous imitent. Et cette chaîne, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est comme ça que Dieu a répandu son évangile au fil des siècles. C'est comme ça que ça se transmet de génération en génération. C'est les jeunes chrétiens qui voient leurs aînés dans la foi marcher en Christ. Et ça les émerveille. Ils décident de marcher comme eux. Et après, ils deviennent à leur tour des modèles que d'autres suivent. Et ça répand ce peuple de Dieu à travers les siècles, mais aussi à travers les continents. Et ça couvre toute la terre. Moi, je trouve ça magnifique et je trouve ça surprenant que le Dieu omnipotent, le Dieu souverain, ait décidé d'utiliser ce moyen pour répandre son royaume à travers la terre. C'est magnifique, c'est beau et ça montre son infinie souveraineté sur son église et sur le monde. Et j'espère que ça vous encourage ce matin à vous aussi grandir en Christ afin de faire partie de cette chaîne d'imitation, de devenir des modèles qu'on puisse imiter. C'est la volonté de Dieu pour nous tous. Alors réfléchissez à qui vous pouvez dire « imite-moi » ce matin. Alors pourquoi Dieu va-t-il utiliser des modèles dans nos vies? Le verset 18 nous donne la raison. Il nous dit « En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. » Alors en commençant le verset par « En effet, Dieu va motiver pourquoi il nous dit d'être ses imitateurs. » Pourquoi? La raison, c'est l'abondance des ennemis de la croix de Christ. Notre vie chrétienne est jonchée de mauvais exemples, d'écueils qu'il faut éviter. Et ces dangers doivent nous motiver à suivre les bons modèles. Alors, imiter les autres, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas très français. Nous, on vient des États-Unis, c'est clairement aussi pas américain. Hein. On veut être le pionnier, on veut couper son bout de forêt et construire sa propre cabane. On veut être le capitaine de notre navire, on veut être Yann Solo, pas un imitateur, ça c'est pas. Hein, on a l'esprit critique, l'esprit libre. On se dit libre penseur, et pourtant, ce qui est frappant, c'est que quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, on finit toujours par imiter les autres. C'est d'autant plus évident que si ça vous est déjà arrivé de changer de culture, c'est quelque chose qu'on voit si facilement. On voit toute une société qui ont tous des lunettes teintées, et tout le monde se dit « Ah ouais, on voit clairement. » Ou on respire tous le même air pollué, et on se dit « Ah, oh, ça sent bon. » Et c'est quand on arrive de là, de l'extérieur, qu'on se dit « Mais non, on voit rien. Oh, ça sent mauvais. » En dépit de nos aspirations, on finit toujours dans notre propre bulle. Et en France, on respire l'air de la libre pensée. Mais au final, par exemple, dans le domaine de la religion, on finit tous par penser la même chose. C'est le passé. Ça n'a aucune influence pour la vie aujourd'hui. Et ça, c'est une caractéristique de notre nature humaine. C'est comme ça que Dieu nous a créés. On va avoir tendance à imiter ceux qui nous entourent. C'est comme ça. Alors, si c'est un fait inéluctable, la bonne question à se poser, c'est pas « Est-ce que je dois imiter quelqu'un ?» C'est « Qui dois-je imiter ?» Parce que j'imite quelqu'un. Qui est-ce que c'est ? Qui devrais-je imiter ? Et ça, c'est au cœur des préoccupations de Paul dans cette dernière partie. Parce que le problème pour les chrétiens, c'est que les mauvais modèles abondent. Alors, ce serait pas une surprise si on pense au monde. Le monde, oui, c'est plein de mauvais modèles. C'est la rébellion contre Dieu, donc forcément, ils vont pas suivre Dieu. Mais je pense pas que ce soit du moins tout ce que Paul est en tête ici. Je pense que c'est frappant qu'il utilise le mot ennemi de la croix de Christ. Il parle pas des ennemis de Christ, ça ce serait clairement le monde. Là, c'est les ennemis de la croix, c'est un peu plus spécifique. Alors, qui est-ce qu'il a en tête? Il dit, je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant en pleurant. Ce sont donc des gens dont il a déjà beaucoup parlé, et sûrement on peut penser dans l'épître déjà. Au verset 19, il va nous donner trois caractéristiques de ces gens. Il va nous dire, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils pensent aux réalités de ce monde. La mention de ventre, honte, monde, ça nous rappelle un peu le début du chapitre 3, où Paul faisait référence aux faux circoncis qui mettent leur confiance dans la chair. Ils ne font pas confiance à l'œuvre de Christ, mais ils rajoutent plein de choses pour le salut. Ils refusent la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Alors ces faux frères, faut bien s'imaginer, ils disent suivre Christ. Hein, c'est pas, ils sont pas à l'extérieur, ils sont dans les assemblées. Mais ils poursuivent un autre prix que Christ. Paul nous le dit, ils poursuivent les réalités de ce monde, leur ventre. Et le mot que Paul utilise pour dire ils pensent au monde, c'est le même mot qu'il utilise pour adoptons cette attitude, adoptons l'attitude qui est en Christ. Il fait appel à deux visions différentes de la vie. Et Paul nous dit, malheureusement, quand on a cette attitude, la récompense, c'est la perdition. Et ce qui est pire encore, c'est que loin d'être des cas isolés, il dit qu'ici que beaucoup pensent ainsi. Il nous appelle donc à la vigilance. Car tous les exemples qu'on a autour de nous ne sont pas forcément des exemples qu'on devrait imiter. Malheureusement, même au sein d'une église. Désolé Vincent. Et si nous ne prenons pas garde, on peut imiter des modèles qui ne sont pas, qui vont nous détourner du but. Commencer à désirer le mauvais prix. Une attitude centrée sur le monde, une perspective limitée à cette vie, aux bienfaits qu'on peut avoir maintenant. D'être obnubilé par les réalités matérielles qui nous entourent, les besoins ou les tentations. Et qui n'aura pas de place pour les souffrances, la conformité à Jésus dans sa mort dont Paul nous parle au verset 11. Alors Paul va donc contraster ses ennemis de la croix avec nous, il dit. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera nos corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Alors si les ennemis de la croix ne pensent qu'aux réalités de ce monde, notre citoyenneté, elle est au ciel, la terre, le ciel. Si les ennemis de la croix mettent leur gloire dans ce qui fait honte, nous, on attend un sauveur. Pas la honte, mais le salut. Si les ennemis de la croix ont pour Dieu leur ventre, nous savons que notre corps, c'est un corps de misère maintenant. Nous, on attend un corps glorieux que l'on va revêtir le jour où nous verrons Jésus-Christ. Nous mettons notre espoir dans ce que Dieu nous a promis, un futur glorieux. Et ceux qui nous entourent vont influencer dans quelle direction on chemine. Parce que malheureusement, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de Suisse. Il n'y a pas de terrain neutre où on peut se mettre et on sera pas dans le conflit. Non, on n'a pas le choix du terrain neutre. On chemine d'un côté ou d'un autre. Soit vers le Sauveur, soit vers la perdition, soit vers le monde, soit vers la cité céleste. Alors frères et sœurs, soyons vigilants. Soyons vigilants de qui on écoute, qui forme notre attitude, car ça aura une influence éternelle sur nos âmes. Alors maintenant, être vigilant, c'est autre chose que restreindre nos fréquentations à juste un cercle super restreint de chrétiens qui sont mûrs. Ce serait aussi mal appliqué ce que Paul a en tête ici. Une église comme ça, ce serait une église étouffante. C'est pas une église que je veux à laquelle je veux appartenir. Une église bien en erreur. Non, Paul nous appelle ici à réaliser la réalité de notre faiblesse et du fait qu'on va imiter les autres. Alors il va nous encourager à prendre les précautions nécessaires. Donc à cette fin, de façon positive, attachez-vous de passer régulièrement avec des frères ou des sœurs qui, vous le savez, partagent le même but que vous, qui ont le même saint mécontentement dont parle Paul ici, qui ont le même but. L'enjeu est de taille, c'est votre âme. En 4.1, Paul nous le dit, il conclut cette section en disant, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, mes très chers frères, vous qui êtes ma joie, ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Paul résume ici son intention dans le passage qu'on vient d'étudier. C'est pourquoi? Parce que l'enjeu est si grand, parce que le prix à remporter est si précieux, parce que la vie chrétienne est jonchée de tant d'écueils. C'est pourquoi demeurer ferme ainsi. Ainsi, comment? On tient ferme quand on veut s'emparer de Christ, quand on vit notre vie comme un marathon, comme une course, quand on s'entoure d'autres frères et sœurs qui courent la même course et qu'on le fait dans les chaque minute de la vie. Alors, j'aimerais conclure avec une application finale. Peut-être que en fait vous êtes fatigué ce matin et que l'idée de courir un marathon, c'est un peu la dernière chose que vous ayez envie de faire. Je dois avouer que moi, c'était mes deux dernières semaines, j'étais un peu là, un peu épuisé. Et donc, j'y ai pas mal réfléchi en préparant ce message. À quoi ça ressemble de courir un marathon quand on est épuisé? Alors, si c'est vous ce matin, quatre pistes d'application. Le verset 12. Christ s'est emparé de toi. Ça, c'est l'évangile. Je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Je vous invite à méditer là-dessus. Jésus-Christ s'est saisi de vous. C'est pas une métaphore, c'est quelque chose de réel. Jésus vous a attrapé. Il vous tient. Et il veut que cette vérité vous encourage, vous émerveille. S'il vous tient, vous n'avez pas à avoir peur. Il va vous aider dans le chemin qui suit, même si c'est difficile. Deuxièmement, Paul nous dit aussi que notre droit de cité, il est au ciel, il n'est pas ici. Que ici, on attend un sauveur, un seigneur. C'est-à-dire, cette terre, c'est pas notre maison, c'est pas notre chez nous. On est des exils, des exilés ici. Alors que la vie soit pas un long fleuve tranquille, sans surprise. Hein. On doit pas trouver notre confort, notre satisfaction ici. Donc si c'est dur, si on se sent pas chez soi, c'est normal. Parce qu'on attend du ciel un sauveur, un seigneur. Et Dieu nous donne la grâce, la patience d'attendre, de continuer à espérer en lui. Troisièmement, la vie chrétienne est un marathon. On l'a vu, donc vous imaginez pas être Usain Bolt. Hein. Votre vie chrétienne, ce sera pas comme ça. Il va y avoir des montées. Des fois, ça va être difficile. Des fois, vous allez même vous arrêter de courir et marcher. Alors, est-ce que ça veut dire quand on marche dans un marathon, on a perdu, on est hors course? Pas du tout. Tant qu'on reste sur le circuit, qu'on continue à marcher vers le but, on est toujours en course. L'important, c'est de garder notre objectif, de continuer d'espérer, de vous en remettre à Dieu pour vous garder, pour le garder comme objectif dans vos vies, quoi qu'il arrive. Et enfin, entourons-nous de frères et sœurs qui courent le marathon ensemble. C'est tellement plus facile de courir quand on est dans un groupe. Lors des montées difficiles, ils vont nous aider. Lorsque on n'a plus de ghetto raid, ils vont nous partager leurs gourdes. Lorsqu'on n'en peut plus, on va les regarder dans les yeux, on va voir la flamme qui les anime, la joie qu'ils ont en Jésus-Christ. Et rien que ça, ça va nous encourager à, ok, à marcher encore aujourd'hui, ne serait-ce qu'aujourd'hui, je vais y aller, parce que je vois mes frères et mes sœurs qui sont à mes côtés et qui, eux aussi, courent vers ce même but. Donc, frères et sœurs, Christ est notre bien suprême. Alors, courons ensemble afin de nous emparer de lui dès aujourd'hui. Prions. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta parole. On te remercie pour ton Esprit Saint, surtout aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte. On prie que tu illumines nos yeux, notre perspective, pour que l'on puisse voir un peu plus aujourd'hui Christ comme notre bien suprême, son excellence. Encourage ceux qui sont découragés, fortifie-nous tous dans notre course. Protège-nous des écueils qui nous menacent. Bâtis ton Église, on prie tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen.